Vos plus beaux runs avec Wynn. Découvrez la marque de vêtements pour la course à pied et le trail made in Italy.
RMC Running. Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Toutes les semaines, quel que soit ton niveau, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec celui que la terre entière nous envie. Que l'Europe entière nous envie, ce sera le cas en tout cas dans quelques jours. Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France. Salut Yo-Yo.
Salut à tous, ça va ?
Ah ouais, bon.
Là on enregistre évidemment un peu en amont, mais le jour de sortie de cet épisode, tu seras la veille de ton marathon des championnats d'Europe.
Ah ouais, je serai moins détendu alors. Valait mieux qu'on enregistre un peu avant.
Ouais, c'est ça, exactement. Valait mieux qu'on te laisse un peu de répit.
Je serai un peu dans ma bulle là, à 24 heures du marathon.
Et bah tu sais quoi, on va faire une projection. Tu nous diras justement, tu vas te projeter vers la veille de course, tu vas nous dire bah voilà, je fais ça, je fais ci, etc. Ok ?
Ça roule.
Alors, nouvel épisode aujourd'hui, alimentation, nutrition et régime alimentaire, c'est ce dont on va parler cette semaine. Qu'est-ce que le régime scandinave dissocié, pratiqué par de nombreux coureurs justement quelques jours avant une grande compétition ? Quels sont les intérêts, quels sont les risques ? Pour en parler avec nous, on va accueillir dans un instant Cindy Rojo, qui est diététicienne nutritionniste et qui accompagne de nombreux sportifs. Et puis je vous rappelle les bons plans d'ossard de l'été, évidemment grâce à RMC Running. Chaque semaine, vous gagnez la tenue intégrale floquée RMC Running en partenariat avec la marque italienne Wynn. Et puis le super bon plan, évidemment, il est encore de s'inscrire. Le package marathon Niscan, le dossard pour la course, la prépa personnalisée et la tenue qui va avec. N'hésitez pas à aller vous inscrire et également à vous abonner à RMC Running sur les différentes plateformes de téléchargement. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
Alors, avez-vous déjà entendu parler du régime dissocié scandinave ?
Après, je ne sais pas du tout, là.
On peut lire tout et n'importe quoi sur l'alimentation idéale pour se préparer à une épreuve d'endurance.
Ah oui.
Ouais, ouais, ouais.
Il faut se rappeler que le corps dispose de deux principales sources d'énergie qu'il va pouvoir recruter durant l'effort. Dans un premier temps, il s'agit des lipides, qui sont essentiellement les graisses contenues dans notre corps.
Vous aimez la littérature scandinave, Madame Mouchboum ?
Cela fonctionne en deux étapes. Donc, cela consiste à dissocier les protéines des glucides.
Et ensuite, les glucides, qui eux sont présents, mais en quantité très limitée.
Des frites.
Dans la deuxième partie, on va faire un peu l'inverse. Donc, on va réduire significativement l'apport en protéines. Mais par contre, on va optimiser de façon fabuleuse l'apport en glucides.
Midi 5, c'est pour ça que j'ai faim comme ça. Je mangerai un âne.
Alors mon petit Durand, est-ce que tu aimes la littérature scandinave ?
Ah, j'ai vu qu'il nous a mis du Zlatan, il nous a mis...
Ah
ouais,
il nous a mis du Julien Lepers qu'on embrasse, évidemment.
Ouais, exactement.
Ah ouais, il a été bon. Geoffrey Charpie, notre producteur. On remercie également notre réalisatrice Julie Deroux. Et on accueille notre invité cette semaine, Cindy Rojo, diététicienne, qui est donc en direct avec nous. Salut Cindy.
Bonjour tout le monde.
Alors Cindy, elle tient un site de référence. Si jamais vous pratiquez de l'ultra longue distance ou alors de l'Ironman, vous y allez, franchement, c'est fait pour vous puisqu'elle vous fait un programme détaillé de votre nutrition et de votre alimentation. Là, t'as beaucoup bossé sur le sujet Cindy, tu es l'interlocutrice parfaite pour notre sujet de cette semaine.
Eh bien, j'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos attentes. Je pense que j'ai pas mal de choses à dire, en effet.
Juste pour qu'on puisse cerner un petit peu ton profil, tu pratiques la course à pied, toi, Cindy ?
Non, alors, uniquement pour le loisir, mais pas de compétition.
D'accord, comme ça.
Donc, moi, je cours des 10 km pour me faire plaisir, pour l'entretien.
Ok, de t'entretenir un peu, quoi. Johan, on le disait, au moment de la sortie de cet épisode, tu seras à la veille donc, de ta course des championnats d'Europe de marathon. À partir de quel moment, Johan, tu fais attention à ton alimentation ? Est-ce que c'est 15 jours avant ? Est-ce que c'est une semaine avant ? Est-ce que tu as une règle comme ça que tu te fixes avant chaque grosse échéance ?
Bah, c'est quand même tout au long de sa préparation.
Oui,
bien sûr.
Il faut
quand même essayer de faire les choses bien parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, c'est la récupération des charges d'entraînement vient aussi de l'alimentation et de ce que tu vas apporter à ton corps en termes de protéines, de glucides et tout ça dans ta préparation. Mais c'est vrai qu'après, moi, je fais attention à mon poids pendant la période de préparation et tout ça pour vraiment être au poids, affûté, prêt à courir le marathon tout en apportant suffisamment, comme je l'ai dit, de protéines, glucides et tout ça. Et après, c'est la dernière semaine. Hein, c'est la dernière semaine qui, pour moi, est quand même très importante puisque là, on a diminué la charge d'entraînement. On a divisé par deux par le volume kilométrique ou l'intensité qu'on a mis dans l'entraînement. Et c'est ces derniers jours là, cette dernière semaine où l'alimentation va avoir plus ou moins un rôle important sur votre performance, avec bien évidemment les 3-4 derniers jours, avec des erreurs, des aliments à ne pas prendre pour les problèmes digestifs et tout ça. On verra ça au fur et à mesure, mais c'est vrai que la dernière semaine est quand même importante.
Ouais, ouais, donc c'est là où tu es quand même vigilant. Je précise que dans sa préparation, notre ami Durand est passé à moins de 60 kilos, hein, 59 kilos.
Ouais, j'ai perdu pas loin de 2,5 kilos, ouais, entre le mois de mai et le mois d'août. Bon, mais c'est la chaleur aussi.
Ouais, faut te remplumer un peu, mon vieux.
C'est ça. Mais la dernière semaine est faite pour ça, pour se remplumer.
D'accord. Alors, Cindy Rojo, qu'est-ce que c'est exactement qu'un régime dissocié déjà ?
Alors, le régime dissocié scandinave, c'est un régime qui a été créé dans les années 60-70, au départ, pour les sportifs d'endurance, notamment pour les skieurs de fond.
D'accord.
Donc, l'objectif, en gros, c'était de réduire fortement les glucides de J-6 à J-4 avant le jour J de l'épreuve, en augmentant les protéines, et on fait l'inverse à partir de J-3 jusqu'à la veille de la course. Donc l'intérêt de ce régime, c'est de pouvoir faire une surcompensation glycogénique. Donc on l'a entendu en introduction, hein, ce qui est important, c'est d'avoir des réserves en glycogène, donc en glucose dans les muscles notamment. Et cette surcompensation, c'est cette capacité qu'on a finalement à stocker un peu plus qu'à l'habitude, ce qui va nous permettre d'avoir de la réserve et de rencontrer un épuisement de nos réserves énergétiques un peu plus tard dans l'épreuve.
Cindy, si je veux caricaturer, ça veut dire que 7 jours avant mon échéance, j'arrête quasiment totalement tout ce qui est pâtes, féculents et sucre lent, ce qu'on appelle traditionnellement les sucres lents. En revanche, j'accentue ma consommation de protéines animales, etc. Et à 3 jours de la course, je fais tout l'inverse, en fait, c'est ça ?
Et exactement. En fait, on va se retrouver avec une toute petite quantité de sources de glucides, donc de féculents et éventuellement de glucides via les fruits, et avec une grande quantité de protéines. Mais... Et l'inverse en fin de semaine.
D'accord. Ok, et en revanche, la veille de course, tu reprends une alimentation normale ou même pas ? Tu vas jusqu'au bout dans ce schéma-là ?
On va jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au dîner de la veille au soir, on va être dans une alimentation très riche en glucides, donc de J-3 à J-1, et vraiment jusqu'au dîner de la veille au soir, on va être sur un excès glucidique.
D'accord, parce que nous, on a voulu traiter ce sujet parce que c'est quelque chose qui se démocratise un peu chez les coureurs professionnels et amateurs. Personnellement, moi, j'ai jamais osé le faire, Johan, et je sais pas si toi, tu le pratiques, mais moi, j'ai toujours eu l'appréhension de me dire ça va plutôt me dérégler qu'autre chose, et j'ai pas envie de foutre en l'air une préparation parce que je veux tester un truc.
C'est compliqué, c'est comme tout, hein. Faut le tester avant. Quand on dit qu'il faut tester son matériel, ses chaussures, faut pas partir sur un marathon sans avoir testé. Et l'alimentation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que on peut pas faire, si on n'a jamais fait le régime dissocié scandinave sur une compétition avant, sur un semi ou dans sa préparation, en essayant de voir ce que ça donne, comment on le tolère, c'est compliqué de le faire sur un premier marathon parce que il y a quand même pas mal d'inconvénients et des contraintes. Et je pense que tous les organismes sont pas prêts à le faire et à le subir. Et donc c'est sûr que faut pas si on a un gros objectif qu'on veut faire le marathon de machin avec, il faut peut-être pas le tenter à ce moment-là, quoi.
Tu le fais, toi, tu le pratiques ?
Ouais, je le pratique, mais de façon modérée, c'est-à-dire que j'arrête, je fais ma dernière séance à J-7, et derrière je recharge pas en glucides ou en sucre lent comme je le fais d'habitude. Mais je le fais de façon modérée dans le sens où je me permets quand même de manger quelques fruits, de prendre un petit déjeuner classique, mais c'est au cours des repas où vraiment je diminue toutes les portions de féculents. J'en mange plus les repas du dimanche soir, lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir. Et à partir du mercredi midi, pareil, je mange plus de pain, plus de tout ça. Pareil, les boissons de récupération, j'en prends moins. Et par contre, à partir du mercredi midi, après mon entraînement du mercredi matin, qui est le dernier gros entraînement.
Là où tu ressembles à un zombie. Ouais.
Voilà, là où t'es énervé, là où t'as plus de sucre, là où t'es fatigué, là où tu te dis putain, mais c'est dans 4 jours et je vais pas y arriver, c'est pas possible, je suis sec, j'en ai marre. Parce que certainement que on en parlera après, mais c'est un côté psychologique assez difficile.
Ah, évidemment.
Parce que quand t'enlèves du sucre, t'as l'impression de devenir un mec qui pourrait manger n'importe qui. Hein.
Et c'est ce qui ressort le plus quand on observe le site de Cindy. D'ailleurs, vous pouvez taper Cindy Rojo sur les moteurs de recherche, vous trouverez facilement son site. Mais Cindy, pour toi, c'est directement lié à la santé mentale et l'alimentation. Il y a un lien évident et très important.
Complètement. Et puis surtout chez les sportifs d'endurance où le mental va très rapidement rentrer en jeu dans la performance. Bon, de toute façon, je pense que pour certains sportifs, le fait de se faire mal, entre guillemets, avec la préparation nutritionnelle, participe à leur préparation mentale. C'est-à-dire que y a une espèce de préparation mentale où on se dit, bon, bah voilà, j'ai une diète qui est difficile, mais ça me conditionne, un peu comme un entraînement difficile. Alors, dans la mesure où ça peut être favorable à la performance, pourquoi pas ? Maintenant, aujourd'hui, on a des stratégies beaucoup plus confortables parce que les inconvénients du régime scandinave, du régime dissocié scandinave, sont quand même importants.
Bah justement, avant d'attaquer ce sujet-là, parce que je pense que la modération, c'est peut-être une solution qui est adaptable à chacun, mais quels sont les bénéfices et les risques de l'appliquer strictement, du coup, Cindy ?
Le bénéfice direct, c'est vraiment la surcompensation glycogénique, parce qu'on va vraiment pouvoir stocker davantage de glucides.
Donc ça va apporter avec les batteries dans les max, quoi. T'arrives avec les batteries au max,
exactement.
Voilà, d'accord.
Les inconvénients, il y en a quand même beaucoup, et pour moi, ils sont vraiment beaucoup plus importants que les avantages de cette préparation nutritionnelle. Mm-hmm. Alors, les plus courants, c'est évidemment la potentielle perte de poids que ça peut amener, les troubles fonctionnels, les désordres digestifs, parce que c'est pas rien d'augmenter les glucides d'un coup quand il y en a pas eu. Ça peut créer des fermentations au niveau intestinal avec des ballonnements, ou tout simplement favoriser les troubles digestifs à l'effort, qu'ils soient hauts, type vomissement, nausée, ou qu'ils soient bas avec les urgences fécales et les diarrhées qu'on rencontre fréquemment. Quand on regarde au marathon, en épidémiologie, on se rend compte qu'il y a 75% des coureurs qui ont des troubles digestifs. C'est énorme. Donc il y a vraiment, dans cette préparation nutritionnelle, il ne faut pas regarder que l'aspect énergétique, il faut aussi regarder la préparation du confort digestif. C'est hyper important. Et pour moi, le gros inconvénient de ce régime, c'est qu'en fait, en supprimant les glucides, sur les premiers jours, ou quasiment totalement, il faut savoir que le corps va compenser cette absence de glucides, parce qu'on a une même hors effort, hors pratique sportive, on a une consommation cellulaire de glucides qui est très importante. Donc le corps va consommer les protéines pour fabriquer des glucides avec. Donc, certes, on augmente les protéines dans l'alimentation, mais le corps va utiliser ses propres protéines. Comme le corps ne peut pas stocker de protéines, il les consomme au jour le jour, eh bien on va avoir un excès de protéines qu'il va falloir éliminer les premiers jours, et le déficit de protéines après, sur la fin de semaine, va faire que le corps va mobiliser les protéines musculaires, ce qui est quand même un petit peu dommage quand on se prépare à une compétition d'attaquer ses muscles.
D'accord. Ouais, non, mais
à mon sens, complètement.
Il faut faire attention à tout ça. Est-ce que la solution de modération que vient de nous indiquer Johan par son expérience personnelle, est-ce que c'est pas ça la bonne marche à suivre finalement ?
Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, et ça fait quand même un moment que les professionnels de la nutrition normalement sont formés à des techniques beaucoup plus souples et flexibles, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue un petit peu de J-7 à J-5 l'apport en féculents et en sources de glucides type fruits, boissons d'effort, produits de l'effort de manière générale. Mais pas drastiquement, on diminue légèrement. L'idée, c'est de créer un petit déficit dans l'alimentation, ce qui fait que lors du dernier entraînement, à J-5, J-4, un entraînement léger, on va créer une petite fenêtre anabolique qui va demander au corps tout simplement de restocker de l'énergie. Et à partir de ce moment-là, on va réaugmenter les apports en féculents, en fruits, compotes et produits de l'effort, progressivement de jour en jour. Je rencontre beaucoup de sportifs qui, en fait, font des surcompensations glycogéniques en augmentant du jour au lendemain et en se mettant une charge maximum de glucides. Ça fonctionne bien sur le papier, sauf que le jour J, ça crée des troubles digestifs, en fait.
Ouais.
C'est pour ça que, comme je disais, il y a l'apport énergétique, c'est bien de remplir les cases, mais derrière, il faut savoir si c'est bien supporté après pendant la course.
Voilà, donc le gâteau de riz le matin, le grand plat de pâtes le midi et je sais pas quoi, n'importe quoi, pareil, encore un énorme plat de pâtes le soir, c'est déconseillé ça. C'est pour ça qu'on sera meilleur au marathon.
Juste pour J-1. Juste pour J-1.
Voilà. Question toute bête, Johan Durand, mais bon, souvent tu réalises des courses à l'étranger. Est-ce que tu emmènes tes produits à toi pour les jours juste avant la course? Je sais pas, est-ce que
toujours
tes bouteilles de lait, ton café, je sais pas.
Alors non, le lait est interdit chez moi.
Ah, pas de lait, d'accord.
Ouais, non, le laitage avant une course, alors là j'ai du mal. Non, j'amène mes affaires, ouais, j'amène. Alors moi, je fonctionne le matin de la course. Maintenant, je prends un gâteau sport. Là,
ah, t'arrives à manger ça, d'accord.
Ouais.
Ok.
Bah, c'est soit un plat de pâtes à 4h30 du matin, soit ça, et c'est en fait c'est le Le marathon, c'est souvent tôt, c'est souvent des départs 8h, 8h30, 9h, les choses comme ça. Donc ça veut dire que le petit déjeuner, il faut l'anticiper 3h30 avant son échauffement. Donc ça fait presque 4h30 avant la course, 4h30 suivant comment vous digérez. Et c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude de venir avec mon gâteau sport et qui a une tolérance un peu plus large. Vous pouvez déjeuner un peu plus tard. Et je viens avec mes trucs, je viens avec mes boissons d'effort, je viens avec mes boissons de malto, je viens avec dans ma valise, j'ai tout ce qu'il faut, parce que souvent on peut être surpris, c'est suivant les pays où vous allez, vous avez pas les mêmes petits déjeuners. Si vous avez l'habitude de prendre du pain classique, vous allez en Allemagne, ça sera toujours du pain aux céréales ou du pain noir. Vous allez jamais avoir votre baguette à la française. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut prendre en compte, et pour pas se retrouver un peu surpris, moi j'amène tout avec moi. Ouais.
C'est important ça, Cindy, j'imagine, de conserver les habitudes jusqu'au bout, même jusqu'au matin de la course.
Complètement. Je pense que Johan a une très bonne expérience et il la partage bien. Il faut pas faire d'innovation culinaire comme on fait pas d'innovation technique avec du nouveau matériel le jour J. On doit consommer que des aliments que l'on connaît, que l'on sait bien digérer, et il faut absolument éviter les surprises. Donc, il faut avoir ces produits, il faut les avoir testés à l'entraînement, les avoir potentiellement testés sur des petites compétitions en amont ou des longues sorties pour voir comment elles sont tolérées, surtout quand on teste de nouvelles marques ou de nouvelles recettes. Je pense que le coup du gâteau de l'effort, c'est une très bonne chose, parce que effectivement, un repas, il doit être terminé 2h30, 3h au plus tard avant un effort. Après, sinon, on n'a pas le temps de vidanger l'estomac. On pourra pas absorber ces nutriments, donc on aura mangé, mais finalement l'énergie sera pas disponible pour le muscle. Donc avec des produits spécifiques, on va pouvoir rapprocher l'alimentation de l'effort, et puis effectivement être que sur des aliments que l'on connaît bien. C'est important.
Parce que là, on parle beaucoup de nutrition. Parlons d'hydratation aussi, Cindy. Est-ce que là aussi, on accentue sur les derniers jours, justement les jours qui précèdent la compète, admettons du jeudi, du vendredi et du samedi, si la compète est le dimanche, ou est-ce que là, c'est un peu différent, l'hydratation, c'est-à-dire qu'on conserve des habitudes qu'on a mises en place depuis le début d'une préparation?
Alors, l'hydratation, c'est vraiment minutieux, parce qu'en fait, il faut être ni en déshydratation, ni en surhydratation. Parce que soit on va mettre en difficulté l'organisme d'un point de vue métabolique, soit on va le surutiliser, on va faire travailler les reins et puis augmenter aussi la diurèse, hein, l'envie d'aller aux toilettes qui est un vrai problème. Donc en fait, il faut essayer de répondre précisément à ses besoins quotidiens. Pour ça, il y a pas mal de techniques pour évaluer les pertes hydriques, et selon la ration énergétique, en fait, on calibre le nombre de millilitres à consommer que l'on fractionne sur la journée. Donc ça, c'est vraiment un travail de préparation. Donc on fait pas de réserves hydriques, parce que de toute façon elles sont filtrées par le rein très rapidement. Par contre, on veille à être correctement hydraté toute la semaine, notamment sur le dernier jour. On veille à être correctement hydraté, mais plutôt en journée, pour éviter les réveils nocturnes qui vont nuire à un bon sommeil et nous fatiguer pour le lendemain. Parce que j'ai rencontré des sportifs qui aimaient bien boire de grandes tisanes le soir,
des boissons
qui ressemblaient plus à des saladiers, et qui se lèvent trois fois dans la nuit. Voilà. Donc ça sert à rien.
Bon.
Et l'hydratation est très importante, surtout quand on... Là où on peut se faire piéger, c'est dans les transports. Moi, je le vois, par exemple, généralement, un marathon, on voyage à J-2, donc la course a lieu le dimanche, on part le vendredi. Et tu sais que dans les avions, t'as plus le droit de prendre ta bouteille et tout. Donc, du coup, tu passes les contrôles, et dans l'avion, tu bois pas. L'avion, ça déshydrate beaucoup. Et du coup, tu te retrouves ta journée du vendredi sans avoir bu, parce que voilà, t'avais pas le droit d'avoir de bouteille sur toi. Donc, il faut faire attention à pas se faire piéger dans les transports comme ça, à toujours acheter des bouteilles d'eau pour toujours s'hydrater. C'est hyper important, les 48 heures et 24 heures avant, de quand même bien s'hydrater, et de pas se faire piéger par les voyages ou les choses comme ça, où on a tendance à oublier qu'il faut boire, quoi.
Il y a un nombre de litres d'eau conseillé par jour en moyenne, Cindy? Je sais pas, 2 litres d'eau, 1 litre et demi?
Alors, ça va vraiment dépendre de la ration énergétique. Non. En réalité, on a besoin d'un millilitre d'eau pour une calorie consommée. Donc, quelqu'un qui va avoir une ration de 2500 calories, alors qui est vraiment une toute petite ration de jours de repos, pour un sportif, eh bien, il va avoir besoin de 2,5 litres d'eau. Mais dans une ration de 2500 calories, il y a déjà 1 litre d'eau dans les aliments. Donc, il va lui rester 1,5 litre à boire. Et c'est de là que vient la recommandation de boire 1,5 litre par jour. C'est pour une ration moyenne de 2000. Donc après, dès que la dépense énergétique augmente, le besoin hydrique augmente. Donc ça, c'est un petit calcul à faire par les professionnels de la nutrition qui vont pouvoir vous expliquer. Bon ben voilà, sur tel type de journée, il faut boire 2 litres, 2 litres 5. Après, j'ai vu des plans hydriques monter à 9, 10 litres sans problème.
Hein. Ah ouais. Wow. Alors après, vu les périodes qu'on a traversées, pour les sportifs de haut niveau comme Johan, ouais, j'imagine qu'il a bu quelques litres d'eau. Ouais, parce que là, forcément. D'ailleurs, Johan nous parle souvent de ça, Cindy, l'importance d'avoir une sortie longue, de se peser et de se peser juste après pour voir le volume d'eau qu'on a perdu. En tout cas,
exactement.
A perdu, je sais pas, 2 kilos, peut-être pas 2 kilos, mais 1,5 kg d'eau, ça peut arriver.
Ça. Ah oui, c'est complètement ça. Hein. Surtout en ce moment, là, les coureurs, moi j'ai des sportifs sur des sorties de 2 heures qui perdent 3 litres, donc on est à 1,5 litre par heure d'effort. Et en fait, quand on regarde en rendez-vous, en consultation, bah, je me rends compte qu'ils boivent un bidon de 750. Ils boivent la moitié de leur perte. Donc, ils sont déjà en déshydratation.
Ah oui, d'accord.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'effort, la soif, elle est retardée. On n'a pas soif tout de suite. Donc, il y a deux choses qui retardent la soif, c'est l'exercice physique et l'âge. Donc, si on attend d'avoir soif quand on est sportif, en gros, c'est comme si on attendait d'être en surchauffe en voiture pour mettre du liquide de refroidissement. Ah, c'est trop tard.
Et on conseille souvent, même dans les séances d'entraînement sur une préparation longue comme ça, Johan, de s'habituer à boire pendant l'effort. Hein. Même sur un petit footing de récupération, on peut toujours emmener une flasque et s'habituer à boire en train de courir.
Bah, hein. Ouais, ça c'est pour le côté aussi performance, parce qu'on sait très bien que sur un marathon, c'est jamais évident de boire pendant l'effort, de déglutir pendant que vous courez à 15, 16, 17 km/h. Bah, c'est pas forcément évident. Donc ça, il faut s'habituer à prendre les ravitaux si vous arrêtez pas. À chaque ravitaillement, si vous comptez faire le marathon en 3 heures, vous n'avez pas le temps de vous arrêter. Donc là, il faut apprendre à prendre son ravito, à boire en courant à 15 km/h et tout ça, c'est pas facile. Donc faut l'apprendre. Ouais. Ce sont des choses qui se travaillent à l'entraînement, déglutir, parce que voilà, vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui va naturellement augmenter parce que vous allez mettre la tête en arrière, parce que vous allez moins bien respirer. Donc ça se travaille. Et puis voilà, comme on l'a dit, c'est très important de finir les sorties d'entraînement. Pas déshydraté, parce que sinon derrière, bah, vous risquez la blessure, vous allez mettre beaucoup plus de temps à récupérer de la séance et c'est risqué, quoi.
Cindy, c'est crucial de boire par petites gorgées, hein. Faut pas tout avaler d'un coup parce que sinon on peut le payer quelques kilomètres après. Hein.
Exactement, on fractionne les apports hydriques, c'est très important. Il y a plusieurs éléments qui sont importants dans l'hydratation. Dès que l'effort va durer plus d'une heure, c'est de boire par petites gorgées. Moi, j'aime bien faire sonner la montre. Et donc, une fois qu'on a fait la double pesée dont Johan nous parlait et qu'on sait quel volume on doit boire pour une heure, ben, on le fractionne en 6 et toutes les 10 minutes, on boit cette fraction, ce qui permet de savoir qu'on couvre ses besoins et en même temps de le répartir dans l'heure d'effort pour avoir une bonne vidange gastrique. Hein, faut que l'estomac puisse se vider et éviter les sensations de lourdeur.
Alors, toi, tu t'es spécialisé dans les distances un peu plus longues que le marathon. Depuis tout à l'heure, on parle de marathon parce que c'est la distance qui est régulièrement travaillée. Et puis en plus, Johan est à fond dedans parce qu'il va disputer les championnats d'Europe. Mais toi, tu t'intéresses plutôt à ce qui est un peu plus long. On le disait, l'Ironman, donc qui combine les trois sports du triathlon, mais sur une longue durée. Est-ce que les conseils sont les mêmes, tous ceux qu'on vient de donner en ce qui concerne la semaine pré-compétition? Est-ce que tu as les mêmes conseils de nutrition ou est-ce que les apports sont quelque peu différents?
Globalement, c'est exactement la même stratégie. C'est le jour J que les conseils vont vraiment varier. Et en fait, on va rencontrer surtout les mêmes problématiques, mais qui vont être décuplées. Donc, au bout d'un moment, les troubles digestifs sont quasiment inéluctables dans le triathlon Ironman. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée dedans, parce que j'aime bien les problèmes un peu insolubles. Ben oui, sinon c'est pas drôle.
Ah, oui.
Sur un marathon, on arrive vraiment à calibrer les choses avec une bonne préparation et à apporter beaucoup de confort, surtout chez des athlètes comme Johan. J'ai regardé les temps qu'il fait.
Alors, 2h10,
sur le
c'est
marathon.
Bouclé, hein, donc c'est bon.
Ben oui, j'ai envie de dire là, sur un effort comme ça, que je qualifierais presque de court du coup
bien sûr.
Pour un marathon, on a des prépas qui sont super bien et qui fonctionnent bien. Dès qu'on va être sur des efforts qui durent plus de 5 heures, là, on va rencontrer des vraies difficultés. Donc, le choix des produits va être très important parce que on a des produits de l'effort, on en a moult à choisir et finalement, ils sont très très loin d'être adaptés. Tout le monde cherche à apporter un maximum d'énergie, on a un volume minimum et c'est pas forcément la bonne solution. Alors, sur des heures d'effort, ça va pas trop gêner. Au-delà de 5 heures, ça va commencer à poser des vrais problèmes digestifs. Donc, il y a pas mal de choses à réadapter.
Qu'est-ce que tu penses des gels énergétiques? C'est indispensable pour toi justement sur les distances assez longues?
Je pense que déjà dès le marathon, c'est super.
Ouais.
Aujourd'hui, ils font des gels qui sont très bien composés. C'est léger à transporter, c'est facile à consommer. Je pense qu'il faut vraiment le consommer avec une gorgée d'eau. Moi, je recommande toujours de le mélanger dans la bouche avant de le déglutir pour éviter les renvois, tout simplement.
Quelle horreur.
Il est un peu épais, un peu visqueux.
Absorber un gel et pas avoir l'eau ensuite. Allez-y, hein, vous avez passé un bon moment.
C'est horrible.
Ah, mais j'avais jamais pensé, moi, en revanche, à absorber le gel avec de l'eau. Alors, je savais qu'il fallait boire après, mais pas en même temps. Alors, ça, c'est un bon conseil, Cindy.
Quand c'est possible et qu'on est bien entraîné, comme le disait Johan, à boire en courant, c'est de mettre la gorgée d'eau tout de suite dans un fluet dans la bouche et vraiment de remuer comme quand on se brosse les dents un petit peu et qu'on fait qu'on utilise la bouche pour faire la miction et puis voilà, on déglutit ensuite et il y a une meilleure assimilation derrière et c'est beaucoup mieux supporté au niveau digestif. Après, dans les gels, on trouve tout un tas de choses, notamment les gels avec caféine qui peuvent être très intéressants, mais souvent qui sont consommés, à mon sens, trop tôt dans l'épreuve.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir que les stimulants, ça apporte pas de l'énergie, ça stimule. Et donc, ça invite l'organisme à travailler davantage sans forcément apporter beaucoup plus d'énergie. Donc, moi, je les conserverais plutôt pour les fins de parcours que pour les démarrages.
Tu m'as dit, ils s'appellent un coup de fouet. Généralement, les marques, elles appellent ça les gels coup de fouet, les trucs comme ça. Ouais. Donc, ceux-là, c'est vraiment les derniers kilomètres. Ouais.
Rappelle-nous, toi, ton alimentation sur un marathon, même si ça va très vite pour toi. C'est quoi le plan de bataille en général, Johan?
Moi, c'est boisson d'effort à tous les ravitaillements, donc tous les 5 kilomètres. Et après, c'est un gel au 21, un gel au 30. Et si besoin, le dernier, le coup de fouet au 35 ou 40 pour aller au bout. Mais comme elle le disait, celui-là, on sait très bien que le dernier ravito au 40e, il servira pour le podium protocolaire. Il sert plus pour le. Parce que voilà, on a 2 kilomètres à faire en 6 minutes. 6 minutes, on a passé la ligne, donc le gel, il a pas le temps de faire effet. Hein.
C'est je savais pas que tu consommais que de la boisson d'effort et pas de l'eau toute simple. D'accord.
Ah non, que de la boisson d'effort. Ouais. Je bois le matin après mon petit déjeuner, je bois de l'eau jusqu'à l'échauffement et là, à partir de l'échauffement, je bascule sur de la boisson d'effort.
D'accord. Tu le conseilles ça, Cindy, à un coureur lambda?
Ouais. Ah ouais, c'est super. Moi, je pense que la boisson d'effort, c'est vraiment la meilleure source d'apport glucidique au cours de l'effort. C'est une des mieux tolérées. Et si la boisson est bien concentrée, parce que souvent, elles sont surconcentrées, mais si elle est bien diluée et bien tolérée, c'est confortable.
Alors... Ça, il faut l'avoir testé aussi à l'entraînement, parce que c'est sûr que moi, je divise presque les doses recommandées par deux par rapport à ce qui est recommandé, parce que sinon, je trouvais que c'était trop sucré et je la tolérais pas. Au bout d'un moment, ça me pétait le bide.
Donc, sans citer de marque, c'est pas de la boisson toute faite, mais c'est de la poudre que tu mélanges et c'est toi qui fais tes dosages, Johan.
Oui, je fais des dosages en fonction de... après, ça va jouer aussi en fonction de la température extérieure... plus il fait chaud, plus il fait froid, les choses comme ça. Et après, je fais mes propres dosages en fonction de ce que j'ai l'impression de tolérer. Mais parce que voilà, j'ai 6 marathons à mon actif et que maintenant, je l'ai fait une fois l'erreur de vraiment suivre sur mon 2e marathon, vraiment suivre les boissons. Et au bout du 25e, je ne tolérais plus le sucre. J'avais mal au ventre. Je voulais que de l'eau parce que j'arrivais plus à tolérer les boissons sucrées, quoi.
T'as cette sensation de totale déshydratation,
d'avoir mal au ventre et te dire, là, si tu ramènes un peu de sucre, tu vas finir aux toilettes, hein.
Ouais.
Et j'étais vraiment pas bien. Et puis, tu sais, cette sensation de, quand t'as trop de sucre, que t'es presque en hyperglycémie, là, où t'es vraiment pas bien. Donc, j'avais fini à l'eau. Et bon, ça s'était bien passé, mais c'était ric-rac. Et à partir de là, je me suis dit, l'erreur, faut plus la refaire. Maintenant, on met un peu moins de sucre, peut-être. Et puis, au final, maintenant, je me connais et je connais mes doses.
Ouais, Cindy, tu voulais rajouter un truc?
Je pense que, Johan, t'as de bons ressentis parce que globalement, j'ai fait une petite étude perso sur plus d'une trentaine de boissons du marché et elles sont en moyenne 2 fois trop concentrées. Alors, j'en ai retrouvé qui étaient 3 à 4 fois trop concentrées. Mais je pense qu'on peut déjà diviser la concentration par 2. C'est-à-dire que quand ils nous disent de mettre tel volume de poudre pour 500 millilitres, en fait, faut le mettre pour un litre de boisson. Et on peut même descendre en dessous sans problème. Ce sera d'autant plus efficace qu'on sera correctement hydraté. Parce que le souci, c'est que s'il y a trop de sucre, on se retrouve avec des boissons qui n'ont pas une bonne tonicité. Et l'eau ne passe pas dans le sang, ça reste dans l'intestin. Et alors là, c'est le meilleur moyen de devoir courir sur le côté okay. pour se vider.
Alors, Cindy, Johan est un athlète pro, donc lui, il prépare ses boissons en amont et on peut lui distribuer normalement. Mais pour nous, tous les coureurs lambda, quand on fait des grands marathons, en France, le marathon de Paris ne propose pas de boissons énergétiques, par exemple, il n'y a que de l'eau. Donc déjà, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui font le marathon de Paris au niveau de la boisson? Et puis, pour ceux qui font des marathons à l'étranger, souvent, là, il y a des boissons d'effort. Qu'est-ce que tu conseilles à chaque ravito? C'est plutôt alterner une fois boisson d'effort, une fois eau. C'est quoi le meilleur conseil?
Alors, ça dépend de la présentation des ravitaillements. Donc, pour le marathon de Paris, en général, je travaille avec des gels parce que c'est beaucoup plus simple et comme ouais. ça, on peut consommer de l'eau.
Voilà, que de l'eau avec
alors, des gels ou alors, j'ai des adeptes aussi des aliments qui vont travailler avec des fruits secs. On peut très bien couvrir les besoins aussi avec des aliments courants. Donc, ça va être à la préférence de chacun. Pour les autres marathons où on a un ravitaillement, il faut savoir si les boissons sont proposées diluées ou en sachet et à composer soi-même. Parce qu'il y a des marathons où en fait on va avoir le sachet qu'on mélange dans son verre. Et là, il suffit de mettre la moitié de la quantité dans le bidon proposé. Ou alors, je recommande effectivement d'avoir les deux et de pas boire en fait que de la boisson d'effort. Il faut rediluer avec de l'eau derrière. Eh oui, donc d'accord. soit on a un gilet avec des bidons sur soi. Mmh. Ouais, et ça encore, c'est propre à chacun. Il y a pas mal de coureurs qui n'aiment pas trop transporter. C'est du poids, ça tient chaud.
Moi, je trouve ça insupportable.
Voilà.
À part transporter les gels, quand tu commences à avoir des bidons, c'est trop lourd. Voilà.
Ouais.
C'est psychologique aussi.
Hein. Ah ouais, c'est vrai que moi, mes triathlètes avec le vélo, c'est beaucoup
c'est plus facile. Ouais, ça, c'est sûr. Ah oui.
Bah ouais, ils ont une trousse sur le guidon, c'est parfait. Ils ont leur petite dinette avec eux. Mmh. Donc, sur les marathons où on propose des boissons, ce qu'il faut, c'est savoir ce qui va être proposé. En amont, en général, c'est assez facile à savoir, puisque d'un marathon à l'autre, ils utilisent toujours les mêmes sponsors.
Bien sûr.
C'est rare quand ça change, et puis il suffit de contacter l'organisation. Et du coup, on va pouvoir regarder sur Internet la concentration de la boisson. Et soit on est sur une boisson qui a 30, 40 grammes. Alors, 30, on va jamais trouver, mais 40 grammes par litre, ça existe, et ça fonctionne très très bien, même si c'est trop concentré pour la saison chaude, ça reste quand même supportable. Mais dès qu'on va être sur du 60, 70, 80 grammes par litre de glucides, comme ça se trouve souvent, faut diviser par deux. Donc d'accord. Le mieux, c'est de prendre un verre d'eau à côté.
Ok, ça marche. Et ben voilà, c'était très complet. Merci beaucoup, Cindy Rojo. On peut rappeler donc que tu es diététicienne depuis 2009, spécialisée dans le sport depuis 2013. Tu es basée d'ailleurs dans le 14e arrondissement de Paris. Hein. C'est bien ça, Cindy?
Exactement.
Et est-ce que tu profites-en pour mettre en avant ton site internet qui est assez ludique d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse et tout ce que tu y proposes dessus d'ailleurs?
Bien sûr. Alors mon site, c'est cindyrojo.fr, pardon. Donc c'est mon prénom et mon nom de famille.
Rojo, R-O-J-O-T. Hein. C'est ceux qui nous écoutent.
Voilà. Exactement. Et en fait, alors quand on rentre dessus, il y a une approche très comportementale parce que finalement, quand j'ai rencontré les sportifs d'endurance de fond, j'ai aussi rencontré les troubles du comportement alimentaire. Donc aujourd'hui, j'ai une pratique libérale au cabinet qui est vraiment tournée sur les sportifs qui sont en difficulté d'un point de vue comportemental et gestion de poids. Après, il y a toute la dimension sport et préparation sportive. Donc quand on va dans l'onglet sport, tout en bas, on peut retrouver l'accès à l'évaluation gratuite de votre préparation nutritionnelle. Et donc moi, je travaille aujourd'hui principalement avec l'Ironman, c'est-à-dire que je prépare aussi bien la natation qu'au vélo, qu'à la course à pied, mais sur des très longues distances, avec préparation mentale et nutritionnelle.
Très bien.
Voilà.
T'as des athlètes aussi fins que durant, moins de 60 kilos, ça arrive?
Oui, c'est hyper fréquent, bien sûr.
Ah bon?
Ouais, même si là, effectivement, je pense qu'il a raison, c'est... Faut se remplumer, ça dépend de la taille, mais ce qui est quand même formidable avec les athlètes d'endurance, c'est qu'ils sont capables de nous dire sur un cross, faut que je fasse 58 kilos, mais sur un marathon, faut que j'en fasse 56. Ouais. Au kilo près, ils connaissent leur poids de forme. Hein.
T'as raison.
C'est le poids de forme.
Ils sont flippants, ces mecs, hein, Cindy. Ah ouais, moi, je suis d'accord.
Moi, il me fascine, mais bon.
Voilà, ça c'est mieux. On n'est pas flippant, on est fascinant.
Non, mais c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Cindy, d'avoir été avec nous. Tu restes là, d'ailleurs, on passe au bon plan d'Ossard.
RMC, le bon plan d'Ossard.
Alors, on vous le répète, on vous gâte tout l'été avec notre partenariat avec cette marque italienne Win. Voilà, on vous offre une tenue par semaine, que vous soyez fille ou garçon d'ailleurs. Vous tentez votre chance, vous nous laissez un commentaire sur les différents réseaux sociaux d'RMC Running, sur Strava, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, vous nous laissez votre taille. Nous, on pratique un tirage au sort et on vous envoie ensuite, on prend contact avec vous, on vous envoie la tenue et puis on vous rappelle ce super package. Surtout, c'est important si vous voulez vous motiver pour la rentrée. On vous offre le dossard pour le marathon Nice-Cannes qui est prévu le 30 octobre. En plus de ça, on vous offre évidemment la tenue RMC Running et le plan d'entraînement personnalisé et chapeauté par notre champion Johan Durand. Vous aurez en plus la chance de participer à nos podcasts. Je vous rappelle qu'on cherche 4 profils différents, 2 hommes, 2 femmes, du primo-marathonien à celui qui vise les moins de 3 heures. Donc voilà, c'est assez complet. C'est pour que vous puissiez vous identifier justement aux objectifs qui seront visés. On est pas mal là, Johan. Hein. On va bientôt faire la sélection là.
Hein. Non, mais là, ouais. Ce cadeau-là, c'est...
Ah, c'est magnifique.
Franchement... Pour tous les marathoniens, je pense que c'est le rêve.
Tout à fait. Et sachez qu'on est en train de monter un épisode spécial Niskan pour la fin août. Voilà, on aura une personne qui connaît parfaitement le parcours, qui pourra vous donner tous les pièges et tous les moments importants. Et on rappelle que c'est évidemment l'un des plus beaux marathons de France, si ce n'est le plus beau marathon de France, avec Paris, évidemment, puisque c'est 90% bord de mer. Cindy, c'est pas mal comme cadeau, ça, quand même. Hein.
Oui, vous gâtez vos auditeurs, c'est super.
On gâte nos auditeurs, c'est génial. Voilà.
Exactement. Et en plus, on leur offre la chance de parler avec Johan Durand pendant 4 ou 5 semaines, ça c'est beau. Voilà. Merci beaucoup Cindy d'avoir été avec nous. On a maintenu la tradition avec toi, tu nous as dit que tu pratiques un petit peu la course à pied, les 10 km de temps en temps. En revanche, tu nous as dit j'écoute pas de musique quand je cours. Ah. Mais bon, nous comme on est en veille de marathon des championnats d'Europe, on a voulu faire un petit clin d'œil à Johan Durand avec son pote Joe Dassin. Écoutez.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Yeah, 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 yeah.
Le petit déj à Munich, hop, 4h du matin, bam.
Une chocolatine.
Une chocolatine, non, ça n'existe pas la chocolatine.
Tu sais que je me suis rendu compte que je dis même pas chocolatine en fait.
Et tu dis rien, tu dis
non,
pas chocolat.
Non, je dis choco. Quand, dans le sud-ouest, même pas tu dis chocolatine en entier, tu dis choco et le boulanger il sait ce que c'est une choco.
Quel triste pays.
Ah ouais.
Bon, très bien.
Ça Cindy, sera pour après.
Cindy, pas au chocolat ou chocolatine? T'es de quel team?
Je suis team pain au chocolat, mais je crois qu'il n'y a pas de débat, hein, ça dépend de la région.
Oui, mais bon, quand même, hein, respectons la langue française. Bon, merci beaucoup, Cindy. J'espère pour toi aussi, surtout après
merci
la course.
Merci à vous pour l'accueil.
On t'en prie, évidemment, et on te remercie d'avoir été avec nous, c'était très complet. Merci, Johan Durand, merci, coach. Bonne course demain, hein. On croise les doigts, on est tous avec toi, mon vieux.
Oui, là.
Ah ouais, hein.
Il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Voilà, on espère que le plan va se dérouler sans accroc, comme tu aimes le dire.
Voilà.
Et puis, on te souhaite toute la réussite possible. On se retrouve dès la semaine prochaine et on vous rappelle ce conseil. Évidemment, comme toujours, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
Le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur.